Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, commission sur la violence dans les sports. Le commissaire Gilles Courteau annonce un programme de prévention dans la LHJMQ. Justin Trudeau affirme vouloir fermer le chemin Roxham et avoir voulu le fermer depuis plusieurs années. La mort présumée d'un leader complotiste est démentie par sa fille et la drogue zombie qui continue de ravager les grandes villes américaines et qui pourrait se rendre très bientôt à Montréal.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Avant de passer aux autres nouvelles du jour, nouvelles de dernière heure qui nous tombent dans les bras.
Qui est un peu bizarre, en même temps, avec des montants d'argent énormes en jeu.
Ouais, ça pourrait coûter extrêmement cher à la fois à la MLS, la Ligue de soccer majeure, donc en Amérique du Nord, et le CF Montréal, qui est inclus dans la MLS. Pourquoi? Parce que Associated Production Music, APM, qui est un géant new-yorkais de la musique, entre autres, a déposé une poursuite civile en Californie. Il allègue que 253 de ses pistes sonores, qui sont protégées donc par des droits d'auteur, auraient été utilisées à la fois par la Ligue de soccer et par les équipes individuellement pour des contenus qui sont diffusés en ligne ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, des publicités ou des vidéos de faits saillants. On va voir les meilleurs jeux, les meilleurs buts.
Il y a une musique qui accompagne les faits saillants.
Il y a une musique épique en fond de trame qui va justement encourager les gens en l'écoutant.
Je peux pas croire que des professionnels comme ça ont utilisé de la musique sans jamais payer les droits.
Mais là, on dit que c'est 583 contenus qu'utiliseraient des œuvres musicales de manière illégale. Pour ce qui est du CF Montréal, ça serait
583 contenus, mais qui ont peut-être été utilisés des dizaines, des centaines de fois, des auditoires de millions de personnes.
Exactement. Et là, on parle de 5 œuvres qui auraient été diffusées par le CF Montréal, de 5 œuvres différentes, dont la populaire piste hip-hop Game Face On, qui ça était dans une dizaine de productions distinctes qu'on a utilisées du côté du CF Montréal. Donc, on parle d'une injonction pour que l'utilisation des pistes sonores cesse immédiatement, mais surtout que c'est une poursuite, on n'a pas encore les montants, mais c'est dans les dizaines de millions de dollars, Mario, là, voire plus, qu'on va monter. C'est sûr que ça surprend, non? Quand t'écoutes une vidéo, moi, je suis pas le premier à googler, est-ce que cette musique est protégée par des droits d'auteur et est-ce que l'organisation
même si elle l'était protégée, tu peux présumer que c'est pas quelqu'un qui avait ça dans son sous-sol, là, que c'est quelque chose de sérieux, de professionnel, puis qu'ils ont fait les vérifications s'il y avait le droit d'inclure cette musique-là.
Ouais, et là, on comprend que le CF Montréal, avec 5 œuvres, c'est pas les pires dans toute cette histoire-là. C'est surtout la MLS elle-même, là, comme ligue, qui aurait utilisé dans ces vidéos.
Combien? 580 œuvres?
Ouais, on parle de... En tout et partout, c'est 583 contenus. Là-dedans, la majorité serait la MLS elle-même et la deuxième franchise en valeur dans la ligue, le Galaxy de Los Angeles. Qui aurait utilisé beaucoup de contenu d'APM, entre autres. Donc, ce sera une poursuite, assurément,
qu'on
va suivre.
Donc, au total, avec 5 œuvres, dans le fond, le CF Montréal, c'est pas si pire.
Oui, absolument. On parle quand même, là, ça pourrait coûter cher. C'est surtout que, quand on parle de dizaines de millions de dollars, c'est que par chanson, par contenu, c'est à peu près 150 000 $ de dommages qui peut être réclamé. Donc, faites le calcul quand on parle de centaines comme ça.
Il me semble que dans un tribunal en Californie, une cause aussi complexe, d'après moi, ça sera pas réglé dans 3 semaines.
Ouais, non, attendez-vous pas à ce que la semaine prochaine, on commence à payer du côté de la MLS et du CF Montréal.
À suivre.
Sinon, aujourd'hui, toutes les têtes étaient tournées vers cette commission sur la violence dans les sports à l'Assemblée nationale, ici à Québec. Et le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, reconnu officiellement devant les parlementaires aujourd'hui qu'il y a encore une culture secrète du vestiaire. C'est les mots qu'il a employés pour désigner tout ça. Et annoncé du même coup qu'un programme de prévention des comportements inappropriés va être mis en place dans cette ligue de hockey junior majeur. On dit qu'il y a un comité indépendant qui est chargé justement de mettre en place ce plan d'action-là dans la ligue. On va avoir un programme de prévention aussi des comportements inappropriés, mais aussi un code de vestiaire LHJMQ qui serait mis en œuvre dès la prochaine saison 2023-2024. Ça va dicter entre autres quels comportements on s'attend des jeunes joueurs, mais aussi des personnes qui ont accès au vestiaire. On s'est dissocié quand même là de toutes les révélations qui ont été faites dans un reportage de Radio-Canada le 13 février dernier concernant justement ces initiations absolument barbares, torture, viol, agression sexuelle alléguée. Bref, on s'est dissocié de tout ça. Il n'y aurait pas de cas dans la LHJMQ. Mais on reconnaît quand même, Mario, puis c'est une bonne chose, je pense, qu'il y a encore un climat toxique qui peut exister dans les vestiaires.
Ouais, et je comprends que M. Courtois a dit même que toute forme d'initiation, c'était, il souhaitait que ce soit fini là, dans les équipes. Mais moi, exemple, quand on dit la phrase « qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire », bon, que ça, faut plus que ce soit le cas. Mais moi, je pense que c'est comme naturel. Là, que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. C'est qu'il n'est pas supposé se passer des choses criminelles dans le vestiaire.
Oui.
S'il se passe des stratégies de hockey ou une solidarité entre les joueurs qui est saine ou des choses saines, que ça reste dans le vestiaire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est une confrérie normale là, dans une équipe. Tu veux qu'il y ait un esprit d'équipe. Maintenant, c'est qu'il n'est pas supposé se passer des choses criminelles dans le vestiaire, puis que là, l'expression « ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire » n'est pas supposé t'en être une pour laquelle on parle d'une omerta te référant à « va pas porter plainte, t'as vécu un crime, là, mais va pas porter plainte à la police parce que ce qui s'est passé dans le vestiaire reste dans le vestiaire ». Mais j'ai l'impression qu'on perd un peu toutes ces lignes-là.
Ouais. On ratisse large, disons-le, ouais, pour empêcher des débordements.
Ouais. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, t'avais un mélange de députés qui cherchaient d'une façon, je dirais, constructive à trouver des solutions à des problèmes dans les équipes de sport avec les gens qui sont dans le sport. Puis t'en as d'autres, pardonnez-moi, mais qui jouent un peu au puriste, comme si des gens là, qui ont consacré leur vie au sport, mais eux autres, là, c'est des... Eux autres, ils ont les mains sales, eux autres, ils s'occupent pas bien des jeunes, eux autres, ils aiment pas vraiment les jeunes, mais les députés élus, eux, là, oh, eux, ils sont plus blancs que blancs, puis là, eux...
C'est venu te chercher, ça, Marie?
Bah, à un moment donné, on sait tous que c'est pas clair de même, puis que les députés, si ces députés-là, pour plusieurs qui ont jamais été dans le sport, s'ils s'étaient occupés d'une équipe de sport, ça aurait peut-être pas été parfait non plus, là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, prendre ça de haut, ça vient que ça m'énerve.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Le premier ministre Justin Trudeau a réagi aujourd'hui à tout ce dossier qui continue de bouillir. Là, je pense qu'on va employer ce terme-là autour du chemin Roxham, mais a affirmé aujourd'hui une phrase qui a peut-être fait sourciller certaines personnes. Il a dit qu'il veut fermer le chemin Roxham depuis plusieurs années, mais que c'est pas une question de si on veut le faire, mais plutôt de comment on veut le faire.
Faut éviter les solutions simplistes, a-t-il dit. Il n'y a pas tort là-dessus.
Ouais, parce qu'on a la plus grande frontière terrestre au monde, faut-il le rappeler, 6 000 kilomètres de frontière avec les États-Unis qu'on partage. Il a répété la phrase qu'il a dite souvent là, de si on ferme le chemin Roxham, il va y avoir des nouveaux chemins qui vont se créer ailleurs.
Mais quand il dit fermer le chemin Roxham, c'est ce qu'on vise depuis des années. Lui, il dit ça comme si c'était une évidence. Moi, je pense que le commun des mortels a été très surpris. Moi, en tout cas, j'ai été très, très surpris d'entendre Justin Trudeau prononcer ces mots-là. Je pense pas qu'il les a prononcés souvent. Et c'est comme si, dans le fond, quand tu prends ça sur le fond, c'est un énorme virage pour Justin Trudeau là, de dire, mais moi, à partir de maintenant, lui dit que ça a toujours été le cas, mais on s'en est jamais rendu compte. Mais qu'à partir de maintenant, son objectif, c'est de fermer le chemin Roxham. Pour moi, c'est une grosse nouvelle. Par contre, ce que François Legault lui demandait, c'est de mettre ça en priorité, là, dans sa réunion avec Joe Biden, de mettre ce sujet-là en haut de la pile. Ça, je l'ai pas entendu de lui aujourd'hui. Il dit, ça fait des mois, même des années qu'on discute avec les Américains.
Il dit que ça fait des progrès en ce moment sur ce front-là,
oui,
dans les discussions.
On est en train de faire des progrès.
Il dit que c'est vraiment d'ailleurs, il pointe que la solution, selon lui, pour régler tout ça, c'est la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, justement, avec les États-Unis.
Mais il se met aucune pression sur le fait qu'il faudrait qu'on essaie de régler ça avant la rencontre de M. Biden le mois prochain, au mois de mars.
Oui, il en a profité pour glisser un mot sur le Québec aussi. Il a dit que les Québécois ont été extrêmement généreux pour accueillir et absorber les demandeurs d'asile dans les dernières années. Ça aussi, c'était peut-être en réponse, si on veut, aux efforts de M. Legault là, toute la semaine. La lettre qu'il lui a envoyée, le monde dans le Globe and Mail également. Et pour ce qui est de M. Poilievre, il lui a adressé une petite pique encore une fois. Il a insinué qu'il voudrait construire un mur au chemin Roxham. Ce qu'il n'a jamais directement dit, évidemment. Donc, on sent peut-être là, des petites piques qui sont lancées comme
ça. Oui, mais on sent que depuis que le dossier n'est plus seulement québécois, là, que c'est rendu pan-canadien, ça dérange un peu plus Justin Trudeau, c'est assez évident.
Drôle de dossier aujourd'hui, Mario. Je vois ça bouillir depuis quelque temps sur certains forums, sur les réseaux sociaux, certains groupes aussi. Un homme bien connu ici comme étant un leader complotiste notoire, entre autres, qui a organisé le convoi de la liberté à Montréal en avril 2022, Yann Beauchamp-Boucher. On a appris de par l'entremise d'un internaute nommé Steve Pinette sur un groupe Facebook nommé Expat Québécois au Brésil, que monsieur Yann Beauchamp-Boucher serait mort au Brésil, mais donne pas plus de détails.
Mais lui, l'autre, c'est un expat au Brésil, mais qui se prétend un ami, une connaissance.
On n'a pas, c'est pas clair pour l'instant, Mario. Et là, c'est ce qui s'en vient. Lui prétend dire, ah ben, comme Yann était doublement vacciné, c'est probablement un cas de mort subite. Donc, lit ça, évidemment, la théorie sur laquelle le vaccin aurait tué monsieur Beauchamp-Boucher. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui partent des campagnes de financement en son nom, qui se désolent, qui envoient plein de messages, comme quoi il est mort. Et sa fille de 23 ans, Kelly Liberty Saint-Pierre Beauchamp, elle est toujours ici au Québec et est pas si convaincue que ça, que son père soit mort. Son père en question, de 43 ans, aurait déménagé au Brésil, tout vendu ici pour aller jusque là-bas. Et elle allègue, entre autres, que son père est un grand consommateur de cocaïne et que c'est des raisons pour lesquelles il se serait expatrié. Et là, ce qu'elle dit, c'est que mon père, ben, il était toujours prêt à mentir pour avoir de l'argent quand il était ici. Là, on affirme qu'il est mort. Moi, j'ai essayé de contacter ce monsieur-là. Il m'a bloqué sur Facebook quand j'ai tenté de le contacter. Et là, elle tente, elle, la jeune femme...
Toi, t'es bloqué sur Facebook par un mort.
Ben, pas par son mort, par le gars qui a affirmé que son père était mort.
Ah, okay,
elle a tenté de prendre contact avec lui en disant, ah, ben là... qu'est-ce qui arrive? Et lui l'a bloqué, selon ce qu'elle raconte. Et elle dit qu'après ça, ben, elle a posé des questions à l'ambassade du Canada au Brésil, au coroner, aux autorités brésiliennes, et il n'y a pas personne qui est en mesure de lui répondre à savoir si son père est mort ou vivant. Exactement, même au bureau du coroner ici, on dit qu'on n'a pas été avisé du tout du décès de Yann Beauchamp-Boucher. Et évidemment, la jeune femme se dit qu'elle pourrait bien aller au Brésil vérifier tout ça par elle-même, mais elle a quand même peur pour sa sécurité, surtout si son père pourrait, là, selon ses théories à elle, avoir contracté des dettes de drogue dans le pays. C'est une histoire un peu folle, ça, d'avoir quelqu'un décédé, puis elle, comme elle l'explique, ben c'est indécent qu'il y ait des campagnes de socio-financement pour un décès de quelqu'un qui est peut-être pas mort, là.
Ouais, non, je comprends. Mais c'est le type, c'est vraiment ce qui a enflammé l'affaire, c'est son appartenance au milieu complotiste. Là. Dès qu'il y arrive quelque chose, ça surmultiplie sur les réseaux sociaux. Tu sais... il y a quelqu'un, je pense, c'est en fin de semaine ou au début de la semaine, qui m'a envoyé d'un classique, là, un paquet d'insultes sur Twitter, tu sais. Puis c'est une dame, visiblement, malgré que c'est un pseudonyme, ça a l'air d'une dame. Puis j'avais 30 secondes de libre, j'ai comme ouvert son profil, tu vois, pour voir ce qu'elle publiait.
Non, t'as dû t'amuser.
Non, mais j'ai capoté. Alexandre, mettons, là, cette dame-là, en 72 heures, en 3 jours, là, mettons, elle avait peut-être là, 60 messages sur le vaccin. Et le vaccin, on parle plus de ça, là. Tu comprends? Moi, je suis 4 fois vacciné, mais je parle jamais du vaccin. Ça existe plus. Le monde est vacciné. Ceux qui le sont pas, à la limite, ils le sont pas. Ils l'ont eu, la COVID, puis qu'est-ce que
c'est? Ah, mais c'est plus un sujet d'actualité pour toi ou moi, Mario, pour le commun. Non, mais
ça veut dire que la personne, elle vit encore, là. Mettons qu'elle dort 8 heures par nuit, là, dans son 3 jours. Ça veut dire que presque à chaque heure où elle est éveillée, elle partage un texte sur le vaccin, là.
Oui.
Parce que, mais tout évidemment des titres complotistes en France, puis quelqu'un qui a été malade à cause du vaccin, puis la vérité qui sort ou qui sort pas.
C'est souvent parce que c'est des gens qui se retrouvent extrêmement isolés. Mario, de par, justement, leur obsession sur certains sujets complotistes, vont s'éloigner beaucoup de leurs amis et leur famille, puis ce qui devient leurs nouveaux amis, leur nouvelle famille, ben, c'est les gens en ligne qui vont, eux, constamment répondre et se repartager dans un écosystème comme ça où on ne fait que partager de la désinformation sur des sujets comme le vaccin. Alors, cette dame-là, c'est triste, mais
c'est ça l'actualité de tous les jours, mais c'est le vaccin. C'est ça qui est d'actualité.
Elle, c'est non seulement l'actualité, mais c'est aussi les interactions sociales sûrement qu'elle peut avoir ou qu'elle veut avoir. Ce qui fait que les seules personnes qui la comprennent dans son obsession, mais c'est ces gens qui sont sur Internet. Donc, elle publie beaucoup et les gens vont lui publier également beaucoup toutes sortes de choses. Mais c'est un phénomène que je vois constamment, Mario, dans les milieux complotistes. On publie beaucoup.
Puis on s'obsède. C'est-à-dire, on reste accroché au passé, on s'obsède de sujets que l'autre 99% de la population est complètement passé ailleurs. Puis il macère encore là-dedans complètement à s'échanger des faussetés. Puis tu sais, tout ce qui devait arriver, que les femmes devaient plus avoir d'enfants, tu sais, j'avais le goût d'y écrire, disant, mais tout ce que vous avez véhiculé depuis 3 ans, il y a rien de ça, tout le monde est vacciné, il y a rien arrivé, tout est correct, tout va bien, les femmes continuent d'avoir des enfants. Mais ça vous donne pas un indice que vous devriez arrêter, puis recommencer à écouter le hockey, puis peut-être des bonnes recettes, des nouvelles recettes, puis d'autres choses, puis aller voir un spectacle.
On le souhaite, hein, on le souhaite pour ces gens-là qui finissent par reprendre un certain contact avec la réalité, mais malheureusement, avec les algorithmes des réseaux sociaux, ils risquent de rester enfermés dans cette bulle qu'on a souvent sur les réseaux sociaux encore longtemps.
Tout savoir en 24 minutes.
On continue de suivre également l'enquête publique sur la mort des deux jeunes Nora et Romy Carpentier aux mains de leur père. Et aujourd'hui, on entendait les spécialistes de recherche de la Sûreté du Québec qui ont expliqué qu'ils avaient fait vraiment le tout ce qui était possible pour tenter de retrouver les deux jeunes filles avant qu'elles ne décèdent. Mais ils ont également dit que c'est une opération qui est allée, un, beaucoup trop vite, et deux, on a pointé du doigt certains manques d'effectifs dans les services de recherche. Parce que, Marion, on n'est pas habitué de comprendre là, l'organigramme au grand complet de la Sûreté du Québec ou des policiers, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des équipes de marcheurs spécialisés de la Sûreté du Québec, de gens qui vont entreprendre des recherches. Et ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est qu'à partir de 2012, on aurait coupé beaucoup le service de recherche des unités, justement, de la Sûreté du Québec, et que des 90 qu'il y avait, par exemple, en 2012, mais là, on est rendu à 50 policiers seulement qui composent l'escouade. Et là, on dit que dans la journée...
Il me semble que souvent, pour faire ça, ils se font aider par des groupes bénévoles. Je dis pas qu'il y a des policiers plus spécialisés, mais on donne des petites formations aux gens pour marcher des territoires, quadriller des territoires à la marche.
Oui, et quand il y a eu d'ailleurs l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, qui est une association qui existe, qui ont envoyé 3 de leurs bénévoles qui ont été déployés, par exemple, dans les premières journées de recherche. Mais ça reste que pour la journée du 9 juillet, il y avait 6 marcheurs spécialisé de la Sûreté du Québec et 4 patrouilleurs, 2 équipes donc de 5 personnes. Le lendemain, c'était 7 personnes seulement qui faisaient partie de cette équipe.
Mais à 10, ils ont dit que c'était déjà insuffisant, puis le lendemain, il était 7.
Oui, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y en a 2 autres qui ont dû être envoyés sur une autre opération qui avait en même temps à Natashquan, donc ils ont été dépêchés ailleurs pour un autre cas, et un troisième qui avait des ennuis de santé. C'est ce qu'on a raconté donc dans les témoignages aujourd'hui. C'est quand même spécial. Moi, le nombre m'a frappé de voir que je sais pas exactement combien ça prend de gens pour chercher quelqu'un.
Mais c'est pas beaucoup,
superficie. Le nombre n'a pas l'air effectivement énorme. Puis après ça, on dit que ça aurait pris d'autres renforts aussi au niveau décisionnel. Parce que Martin Bonneau, qui est l'homme qui donnait justement son témoignage aujourd'hui, qui a été le gestionnaire de recherche terrain à partir du 10 juillet, lui dit qu'à un certain moment donné, il donnait des briefings à une douzaine d'enquêteurs sur le terrain, mais il était à la fois à ce moment-là le gestionnaire des recherches terrain, l'officier qui était responsable des opérations et aussi le sergent responsable du module de la direction des mesures d'urgence. Donc, il avait 3 chapeaux en même temps, et ce qui explique, c'est qu'il était incapable à ce moment-là, ça allait tellement vite, de prendre du recul et d'analyser la situation plus froidement pour tenter de prendre des décisions. C'est beaucoup de témoignages aujourd'hui qui étaient d'ailleurs pour certains assez difficiles. On a entendu de la part de certains chercheurs qui ont trouvé d'ailleurs le corps des deux jeunes filles. Il y a eu des sanglots aujourd'hui, Mario l'a entendu par le coroner. Vraiment là, des témoignages à chaque fois qui jettent un peu plus de lumière sur l'opération qui a été difficile, mais aussi sur pas mal d'émotions de la part des policiers. Après avoir démissionné en raison de propos homophobes, voilà que l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Arnaud Dubé, a récupéré son poste aujourd'hui. C'est le président et gouverneur des élites ainsi que le directeur général de la Ligue M18-AAA du Québec qui l'ont annoncé. On se souviendra de la saga rapidement. La semaine dernière, dans le journal, on avait mis en lumière certains comportements répréhensibles de l'instructeur qui aurait tenu des propos homophobes, qui aurait incité, dans certaines pratiques, ses joueurs à se rentrer dedans, là, vraiment à se blesser, selon certains témoignages qui avait été donc dénoncé de la part de joueurs et de leur famille. Mais ce qu'on explique finalement au courant de la dernière semaine, c'est qu'il y aurait eu des formations pour le sensibiliser aux répercussions de tout ça. Il y avait déjà une plainte et une enquête autour de ça. Et même une pétition a été lancée dans les derniers jours pour corriger le tir et ramener l'entraîneur-chef.
Mais parce que toute l'équipe actuelle, les joueurs et leurs parents, puis quand je dis à leurs parents, j'insiste là-dessus, ben je sais que bien des gens sont pas d'accord avec sa réintégration. Moi, je le sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait au quotidien? Qu'il a tenu des propos, je pense qu'il a fait des erreurs, il n'y a pas de doute. Qu'il a tenu des propos inacceptables, il n'y a pas vraiment de doute, c'est avéré. Mais si tous les joueurs actuels et leurs parents disent qu'il faut ramener cet entraîneur-là, je me dis, si les jeunes vivaient l'enfer, puis l'intimidation, puis est-ce que leurs parents, tu sais, ça fait bien du monde qui ment à bien du monde. Il fallait que tous les jeunes mentent à leurs parents. Alors, j'ai l'impression que c'est parce que les jeunes sont assez satisfaits de ce qui se passe, de la façon dont l'équipe est dirigée, les parents ce qu'ils en voient aussi, et donc il y a eu une sorte d'unanimité parce que je pense qu'il n'y avait pas eu l'unanimité. Si les parents avaient été divisés, l'équipe aurait jamais pu le rappeler. Même s'il y avait eu une majorité qui avait voulu l'avoir, ouais. Si ça avait été divisé, on n'aurait pas pu. Ouais.
On comprend mais, que c'est deux cuvées aussi. Là, les agissements qui ont été dénoncés, c'était les joueurs, leur famille, de la saison 2021-2022. Après ça, là, ouais. On a les joueurs de l'édition 2022-2023.
Puis ils ont laissé entendre... Je sais plus trop. Ils ont laissé entendre aussi qu'il fallait faire attention, que parfois un entraîneur doit prendre des décisions difficiles, donc couper des joueurs
ouais, à ce niveau-là.
Qui eux deviennent très déçus. Donc est-ce qu'il y aurait de la vengeance? Est-ce qu'on aurait empiré les accusations contre lui par vengeance? En tout cas, il y avait un petit peu de sous-entendu dans la conférence de presse ce matin.
Économie.
On a appris aujourd'hui qu'Hydro-Québec a enregistré des performances historiques, la meilleure performance de leur histoire en raison de deux choses, entre autres la montée du prix de l'énergie dans le monde et aussi la saison très froide qu'on a observée et donc un bénéfice net qui a atteint 4 557 millions de dollars. Donc,
4 milliards et demi.
4 milliards et demi.
1 milliard de plus l'année d'avant en profit quand même.
Voilà, et là c'est un dividende donc de 3,4 milliards qui a été donné, donc reversé au gouvernement du Québec. Et c'est vraiment beaucoup de grâce, je le disais, une température très froide qui a eu des événements météorologiques
mais c'est
extrêmes.
Surtout l'exportation. Là.
Ben oui, parce
le prix était bon durant l'année.
C'était 5 cents du kilowattheure il y a un an. On est rendu à 8,2 sous du kilowattheure. Donc, les prix de l'énergie, à cause, entre autres, de la guerre en Ukraine, qui ont explosé partout dans le monde. Le marché est très bon. On a pu vendre vraiment l'électricité à très bon prix.
On a vendu... Les ventes à l'extérieur du Québec étaient d'1,8 milliard l'année d'avant. 2,9 en 2022. Alors, c'est une augmentation essentiellement de 60% des exportations. Ça, c'est payant, là. C'est de l'argent neuf qui rentre au Québec.
Pour les gens de ma génération, c'est un deuil, Mario, qui est à faire. Télétoon, la chaîne de télévision jeunesse qui était la plus populaire au Canada, ne part pas, heureusement, mais change de nom, devient Cartoon Network, qui est déjà une marque américaine qui est très, très connue dans l'animation pour les enfants. Cartoon Network existait déjà au Canada, mais elle va devenir Boomerang. Donc, on a comme une espèce de chaise musicale des noms et on va garder... Rassurez-vous tout le monde, la programmation de Télétoon qui va être transférée sur ce nouveau Cartoon Network. Mais pour moi, Mario, c'est le nom qui a marqué là, vraiment mon enfance.
Télétoon.
Tous les petits bonhommes que j'écoutais quand j'étais plus jeune, c'était à Télétoon à la maison. C'était même le 34, si je ne m'abuse, le poste pour à l'époque sur les télés.
T'avais Télétoon puis t'avais Vrac.
T'avais Télétoon, Vrac TV, c'était le 16, Télétoon, c'était le 34.
Mais Vrac, là, c'était plus des vraies émissions avec comédiens, etc.
Exactement, des... plus de télé, c'est plus québécoise, justement.
Alors
mais...
que Télétoon, c'était les petits les bonhommes traduits.
C'était les bonhommes, mais c'est là le soir, t'entends les Spies.
Mais c'est là le soir aussi qu'il y avait des bonhommes un peu plus corsés. Là,
exact, les Télétoon la nuit, qui était leur programmation.
South Park, etc.
Là. Exactement, donc rassurez-vous, ça change de nom, mais Télétoon, la marque en tant que telle, eh bien, elle change.
Le monde.
On commence à s'inquiéter du côté de plusieurs professionnels de la santé aux États-Unis, entre autres, en cause d'une substance qu'on retrouve dans la drogue, un peu comme le fait le fentanyl. Cette fois-ci, c'est la xylazine, qui est connue également comme la trank en anglais, qui est un tranquillisant vétérinaire, ni plus ni moins, qu'on utilise comme sédatif, qui est intégré maintenant dans la confection de plusieurs drogues. Et là, il y a plusieurs dangers, parce que, un, ça réagit pas à la naxolone, ce qu'on utilise habituellement pour gérer quelqu'un qui fait une overdose de fentanyl, par exemple. Et deux, c'est que c'est très difficile à traiter parce que les professionnels de la santé sont habitués de voir des drogues et n'ont pas géré un médicament qui existe habituellement pour tranquilliser les animaux. Donc, ça ralentit le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration.
Le nom drogue zombie, ça vient d'où?
Ça vient de ce dernier symptôme qui ferait pourrir la chair, ni plus ni moins des gens qui se l'injectent autour du site d'injection. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont transformés okay,
zombie,
presque en zombies. De la peau qui dépérit, ni plus ni moins, qui se décompose autour des blessures, ce qui crée presque des trous dans les jambes ou les bras de la personne qui va s'injecter ce genre de produit-là. Ce qui est dangereux, c'est qu'on sait pas du tout qu'on le consomme, que c'est intégré à certaines drogues qui vont être consommées dans la rue. Et on dit qu'à Philadelphie, là, 90% des substances illicites qui ont été testées à Philadelphie en contenaient. On s'inquiète que ça puisse atteindre bientôt Montréal.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.